lorsqu'on est en Israël, on voit tout de suite, on voit qu'il y a un héritage qui se transmet. On voit qu'il y a quelque chose de particulier, on le sent. Et cet héritage, il est souvent visible parce qu'il y a des juifs orthodoxes qui s'habillent d'une manière spéciale. Ils fêtent, ils font leur fête, leur rituel, le Shabbat. Alors c'est vrai qu'il l'a dit, on était des fois embêtés parce qu'on avait choisi les transports publics, mais le vendredi à 17h, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de bus. Alors il faut trouver éventuellement un chauffeur de taxi arabe pour être transporté, parce qu'il n'y a plus de bus, tout s'arrête. Ils respectent les fêtes d'une manière très rigoureuse. Les traditions sont importantes, leur manière de manger, leur manière de s'habiller, comme je l'ai dit. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se transmet, un héritage qui se transmet, mais qui est ancré dans les traditions. J'étais encore frappé de voir, c'était la première fois pour moi que j'allais en Israël, j'étais frappé de voir à quel point finalement tout ça forme leur identité. Être israélien, c'est être juif. C'est très important, c'est très présent. Il y a une sorte de fierté qui se dégage de ça. Puis en même temps, pour nous, il y a une sorte de fascination, parce qu'on les regarde. Moi, j'aimais regarder ces hommes, c'est vrai, orthodoxes, juifs, mais avec leur chapeau, avec leur barbe. J'aimais les voir, j'aimais voir leur famille. Ils étaient souvent en famille, c'était très présent aussi. Et ça, c'est pour ça aussi que je veux vous prêcher là-dessus. Donc voilà, ils étaient là avec leur chemise blanche, leur barbe, leur chapeau, leurs enfants. C'était tellement beau de voir ces enfants avec leur petite kippa, et puis des fois leurs longs cheveux, vous avez déjà vu ces longs cheveux qu'ils gardent juste sur le côté, ils sont tout rasés au milieu, puis ils ont leurs longs cheveux là, et puis voilà, ils vivent ça comme ça. C'était très, très très intéressant. Quand on était à la grande synagogue, c'est vrai, on a vu aussi là beaucoup beaucoup de familles arriver ensemble. Ils arrivent ensemble à la synagogue, c'était très touchant. Donc la famille, j'ai pu percevoir que la famille était beaucoup beaucoup plus présente que chez nous. On sent qu'il y a ce fardeau de transmettre un héritage, de transmettre cette identité juive. Alors vous savez peut-être, un texte fondateur du judaïsme, c'est le texte de Deutéronome 6. On peut dire que c'est un peu la confession de foi qu'on va lire ensemble. Vous connaissez tous le début, depuis le verset 4, mais je prendrai depuis le verset 1, « Shema Israël ». Alors on va prendre cette lecture ensemble, juste vous donner le contexte de ce texte. Donc le peuple, vous savez, le peuple a passé 40 ans dans le désert. C'est une nouvelle génération qui s'est levée pour entrer en possession du pays. Et puis Moïse va rappeler le passé, puis il va rappeler aussi les promesses pour Israël. Et il va donner des clés pour transmettre cet héritage aux prochaines générations. Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. Alors Deutéronome 6, je lis dans la version Summer. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Verset 4, écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est un, ou il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les y inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alors ce texte très riche fait ressortir donc cette dimension générationnelle et l'importance de la transmission. On le voit au verset 2, « Pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. » Et puis au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Alors comment le vivent-ils finalement? Comment les Juifs vivent-ils cela aujourd'hui? Ils appliquent encore littéralement ce texte. Et c'est ça qui est frappant. Alors ce texte est à l'origine des mezouzas et des phylactères. Vous connaissez la mezouza, c'est justement une petite boîte qui contient, entre autres ce texte, plusieurs textes du Pentateuque qu'on accroche au bord, devant sa porte en fait, à côté de sa porte. Et toutes les maisons juives, normalement, ont une mezouza. C'est très important. Donc voilà, ils appliquent la parole littéralement. Les phylactères peuvent avoir différentes formes, mais en gros, c'est aussi des petites boîtes avec ces mêmes passages. Et la parole nous en parle. Jésus a même critiqué les pharisiens qui essayaient d'avoir des phylactères plus gros que tout le monde pour montrer qu'ils étaient plus spirituels. Mais ils en ont encore des fois. Là, on en a croisé un d'ailleurs aussi dans notre hôtel. On a pris l'ascenseur avec lui. Ah, il avait un petit truc au milieu là, au milieu du front. Alors, moi, ça me fait presque loucher quand je l'ai vu. Mais donc, il a un fil comme ça, puis ils attachent là sur leur front. Et des fois, vous avez peut-être déjà vu des juifs qui s'entourent un lacet autour du bras. Et c'est la même chose, c'est la même idée. D'avoir, c'est avec des paroles, des versets du Pentateuque. Donc, ils appliquent littéralement ce texte. Et puis, c'est vrai qu'ils transmettent l'enseignement de la Torah de manière relativement stricte et suivie. Vous savez qu'à 12 ans, les enfants connaissent vraiment la Torah, si ce n'est par cœur, mais en tout cas, ils connaissent très très bien la Torah. Alors c'est vrai qu'il est touchant de voir toutes ces familles, comme je l'ai dit, arriver à la synagogue. Je voyais dans la rue, j'ai même pris des photos là, depuis la fenêtre de notre chambre, parce qu'on voit souvent le père avec son chapeau, avec son fils, puis des fois des grandes familles, encore 5-6 après qui suivent, et ils vont ensemble, ils vont vivre le Shabbat ensemble, etc. Donc il y a quelque chose qui est touchant, mais je me pose quand même la question, qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants, si ce n'est un mode de vie religieux. Qu'est-ce qu'ils transmettent? Et c'est ce sentiment qui résume un petit peu ce que j'ai vu là-bas. On voit qu'il y a cette envie, ce désir vraiment de transmettre un bon fondement. Il y a le respect de Dieu, comme André l'a dit. Il y a le respect de la parole. Quand on va dans une synagogue, c'est vrai, c'est beau. Il y a quelque chose de beau, de touchant. Il y a ce respect qui est là. Qui doit aussi nous inspirer, mais il manque évidemment, il manque cette vie vraiment, cette liberté que Jésus-Christ peut nous donner. Alors ce matin pour nous, aujourd'hui, 2015, Église évangélique de réveil, j'aimerais, André l'a aussi dit, c'est bien, j'aimerais vous inviter à ne pas tomber dans le piège du religieux, parce que ça nous guette aussi. Et à continuer à transmettre la vie, la liberté, la grâce qui est en Christ à la génération qui suit. Et puis pas seulement à la génération, je pense, je vais parler pour les enfants, c'est vrai, mais aussi aux gens qui nous entourent. On a quelque chose à transmettre. Alors comme j'ai essayé de le dire dans l'édito que peut-être certains ont lu, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui beaucoup d'églises protestantes se sont vidées. Pourtant, la réforme, c'était un moment unique. On a cassé les schémas religieux. C'était une révolution, les amis, la réforme. Vous savez ça. Peut-être certains l'ont vécu d'une manière différente, mais peut-être vous êtes passé d'un milieu catholique à un milieu protestant. Vous vivez encore cela, mais c'était vraiment un moment qui a marqué l'histoire. On est revenu vraiment à l'écriture. Vous vous souvenez peut-être ce slogan, c'était sola scriptura, l'écriture seule, c'était l'écriture, la Bible, au centre, qui compte. Puis aujourd'hui, quel est le résultat? Quel est le résultat? Et puis le mouvement évangélique, il est issu du protestantisme, il est né du protestantisme, il est venu peut-être apporter un espace de liberté plus grand dans la vie du culte, dans la louange, une dimension plus prononcée, en tout cas ici, dans les dons du Saint-Esprit, dans ce qui est du charismatique. Un encouragement à développer une relation intime, une relation personnelle avec Jésus au quotidien. Tout ça, c'est très bien, c'est valable encore. Mais avec le temps, nos églises s'institutionnalisent, nos cultes deviennent plus structurés. Peut-être au début, c'est... Vous savez, quand on crée une église, vous avez déjà peut-être implanté une église, certains, vous avez été dans une église naissante, tout est libre, tout est facile, on est juste des amis ensemble. On a du plaisir à être ensemble, il y a la communion qui est là, oh, c'est tellement génial. Puis petit à petit, il y a des autres gens qui arrivent, puis l'église grandit, puis on dit, peut-être que maintenant il faudrait un peu structurer, parce qu'autrement ça ne va pas aller, on ne va jamais s'en sortir. Puis on commence à structurer, puis la structure prend toute la place, petit à petit. Alors c'est le risque. C'est le risque de tomber dans ce religieux et petit à petit nous endormir. Alors quand je dis nous endormir, qu'est-ce que c'est s'endormir ? Pour moi, dans cette idée de transmission, c'est transmettre une religion au lieu de transmettre la vie. C'est ça s'endormir. C'est quand on transmet plus ce qui vit en nous, parce qu'il n'y a plus rien qui vit, où il n'y a que la structure. C'est quand on perd le sens de qu'est-ce que vraiment Jésus fait dans ma vie. C'est quand on a perdu cette onction du Saint-Esprit. Et je prie que ce matin, vous soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Alors je reviens à ma question. Que transmettons-nous à la future génération ? Est-ce que, honnêtement, nous transmettons des traditions religieuses ? Un peu, quand même. Parce qu'on leur montre qu'est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on leur transmet des principes dénués de grâce ? Quelquefois aussi. Moi, je l'ai vécu. Est-ce qu'on leur transmet un enseignement strict de la Bible, comme on enseignerait les maths ? Souvent, il y en a qui pensent que c'est ça. Hein, on transmet la Bible comme on enseigne les maths. Est-ce que c'est ça qu'on fait ? Un petit peu aussi. Moi, je n'aimais pas l'école du dimanche, hein, je vous le dis franchement. Je n'aimais pas ça du tout. Et je suis quand même là aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vos enfants ont des fois un peu de peine, mais peut-être ce message va vous aider à les rejoindre d'une manière différente. Parce que toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais il faut juste réfléchir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on leur transmet juste à apprendre des versets par cœur ? C'est bon, il faut apprendre. C'est bien de connaître la parole. Mais est-ce qu'on a juste ça à leur offrir ? J'espère pas. Alors dans ce texte, il y a une notion essentielle qui a pu s'accomplir que pleinement par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est incroyable de voir l'intention de Dieu déjà dans la Torah. Il dit au verset 6 que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés, où ça ? Dans ton cœur. Alléluia. Donc déjà l'Éternel désire que la loi s'exprime pas uniquement par des actes extérieurs, mais qu'elle soit le fruit d'une réalité intérieure. Déjà dans Deutéronome. Et dans Deutéronome 10, verset 16, il est dit « Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » La circoncision du cœur, dans Deutéronome. Alors que la marque de l'Alliance était la circoncision des mâles, ça vous le savez, ben, l'Éternel avait déjà cette pensée claire que sa parole doit être inscrite dans notre cœur. Que la marque, elle se fait dans le cœur, elle est interne. Ça, c'est important, il doit y avoir un changement intérieur. Et le prophète Ézéchiel parle du cœur de pierre qui sera changé pour un cœur de chair. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Waouh, ça, c'est l'intention de Dieu. Et on a l'impression peut-être qu'ils ne l'ont pas pleinement compris. Alors, ce que nous transmettons à nos enfants doit être le fruit d'une transformation intérieure. Cela ne peut pas se résumer à quelques rites ou principes religieux ou un bon enseignement du dimanche matin, même s'il est important, je le répète. Mais ces choses ne sont pas suffisantes. Moi, je me pense, des fois, on a l'impression que, par exemple, si je pars le matin et que mes voisins me voient, tous les matins, tous les dimanches matins, ils me voient aller au culte, hein, avec toute ma famille. Et des fois, je sais qu'il y en a qui doivent se dire, ah ben, ils sont courageux quand même, hein, avec leurs trois gamins, partir si tôt le matin pour aller au culte. Waouh ! Puis des fois, j'ai envie de dire, ah ben, j'aimerais tellement que ça les inspire. Mais est-ce que cette pensée, elle n'est pas un peu bête ? Est-ce que c'est ça qui va inspirer mes voisins ? Non. Ce qui va inspirer mes voisins, c'est peut-être si un dimanche matin, je ne viens pas ici, puis je prends le déjeuner avec eux, puis je leur transmets ce que j'ai reçu. Je leur transmets ce qui vit à l'intérieur de moi. Je ne vous dis pas de ne pas venir au culte. Allez-y, venez, venez vous nourrir. Hein, quand même que je prêche pour ma paroisse. Mais vous comprenez, des fois on a l'impression que ce qu'on fait habituellement a un impact, mais peut-être qu'il faut juste qu'on apprenne à transmettre. Parce que ces gens, ils ont soif, ils ont faim, ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux. On n'a pas besoin de leur montrer comment aller au culte tous les dimanches. Ça, ils trouveront tout seuls. Alors, cette transmission va se faire naturellement si nous vivons nous-mêmes ce verset 6, si ces paroles sont sur notre cœur. Hein, Luc 6, 45 dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, êtes-vous enthousiaste ce matin pour les choses de Dieu ? C'est timide, là. Est-ce que vous êtes plutôt dans une routine ? On veut briser la routine. Êtes-vous en tant que parents, grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, couple, et même célibataire, est-ce que vraiment vous êtes habité par l'esprit à tel point que vous avez juste envie de transmettre ce qui vous habite? Là, j'ai zéro amen. Ah, vous avez envie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va le faire, le Saint-Esprit va le faire. Parce que forcément que si l'esprit ne nous habite pas pleinement, si on n'a pas ce désir de communiquer, alors ben, c'est inévitable qu'on transmette un héritage qui est juste religieux. On va transmettre des bonnes valeurs. Bien sûr, les bonnes valeurs sont importantes. Mais des fois, vous rencontrez des gens dans la rue, ils ne sont pas chrétiens, puis ils ont des super bonnes valeurs. Ça vous est arrivé quand même. Vous dites, ah, c'est fou ces gens-là, ils sont... Waouh, c'est vrai, ils ont des bonnes valeurs. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc il faut qu'on puisse transmettre ce que Jésus nous donne. Nous sommes appelés à transmettre le langage de la vie. Alors comment? On va revenir au texte. Verset 7, il est dit, tu en parleras. Tu en parleras. Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras. C'est évident. Hein, un langage, le langage de la vie va se transmettre en parlant. Alors, saviez-vous que la maman de ma femme est suisse-allemande? Non, personne ne le savait. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous pourriez penser que, du coup, ma femme est une excellente Putzfrau, et puis qu'elle parle suisse-allemand. Alors, pour la Putzfrau, bon, on s'entraide avec le temps qu'on a, hein, elle n'est pas mauvaise du tout. Mais pour le suisse-allemand, eh ben, c'est vrai qu'elle ne parle pas le suisse-allemand, ou très très peu. Mais on pourrait imaginer quand même, sa maman est suisse-allemande, elle a grandi en Suisse-allemande, elle devrait parler le suisse-allemand. Eh ben non, parce que ma belle-mère n'a pas réussi à lui transmettre ça. Pourquoi? Parce que le contexte de la maison était français. Elle vivait en Suisse romande. Alors tout était roman, puis ma femme n'avait pas envie, puis elle voyait pas vraiment la raison, etc. Vous comprenez que pour transmettre un langage, il faut le parler à la maison. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ça doit faire partie de la vie familiale. Et c'est intéressant de voir que Néhémie a été confronté au même problème. Néhémie, chapitre 13, versets 23 à 24. Je vous lis rapidement, pas besoin de tourner. À cette époque, je constatais également que les Judéens avaient épousé des femmes astodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlait l'astodien et aucun ne savait la langue des Juifs. Ils ne connaissaient que celle de tel ou tel peuple. Une langue, ça représente quoi? Vous qui parlez les langues des nations, hein, il y a plein de nations différentes ici. Une langue, c'est votre identité. Une langue, c'est votre culture. Il y a quelque chose dans votre langue. Vous imaginez la tragédie lorsque une langue ne se transmet pas. Lorsque c'est la langue de mes parents, puis mes enfants ne la connaissent plus. Puis là, Néhémie dit, mais c'est la langue du peuple de Dieu. Et puis les enfants ne la connaissent plus. Et moi, je vous dis ce matin, est-ce que nos enfants connaissent encore la langue de l'Esprit? Est-ce que nos enfants connaissent la langue du peuple de Dieu? L'emphase de ce congrès que nous avons vécu à Jérusalem, elle était mise sur la transmission de l'Esprit, évidemment. Et la vision poursuivie, c'est que toute personne sur la terre rencontre Jésus au travers de la présence du Saint-Esprit d'ici Pentecôte 2033. D'accord? Donc, transmission de la langue de l'Esprit. Transmission de ce que vous avez reçu. Comment c'est possible? Toute la terre rencontre Jésus, vive la présence du Saint-Esprit d'ici 2033. Franchement, c'est possible ça? C'est incrédule. Hein. Moi aussi, quand j'ai entendu ça, je dis, ils s'en foutent. Eh bien, on est 600 millions de chrétiens nés de nouveau. Si chaque personne transmet, parle la langue de l'esprit, transmet ce qu'il vit à 12 personnes, on y arrive. 12 d'ici 2033. Ça paraît pas... incroyable, hein, impossible. 12 personnes, les amis. Transmettre quelque chose. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a transmis vraiment cela? C'est quand vous avez vous-même pas attendu que le pasteur prie pour que vous soyez rempli de l'Esprit, mais que vous, vous avez prié pour que quelqu'un d'autre soit rempli de l'Esprit. C'est quand la dernière fois ? Est-ce qu'on transmet ce qu'on a reçu ? Alors, quelle langue parlez-vous autour de vous, chez vous ? Notre langage, donc quand je parle de la langue de l'Esprit, c'est bien sûr, ça peut être le parler en langue, mais le langage de l'Esprit, c'est aussi celui de la foi, celui de l'amour, de la générosité, de la patience. Et toutes ces choses vont se transmettre naturellement dans notre quotidien alors qu'on est rempli de l'esprit de vie. Et ça, c'est le défi qu'on a dans nos familles. Ça commence par nos familles, c'est sûr. Combien sont découragés de voir leurs enfants vivre sans Dieu, sans la réalité de la présence de Dieu dans leur vie. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'un moment défini pour transmettre quelque chose à vos enfants. Mais si ça fait partie de votre langage, si sa présence est là, si la reconnaissance à Dieu est là naturellement, si la réjouissance, vous êtes dans la joie parce que son esprit est là en vous, si la prière fait partie de votre mode de vie, vous allez leur transmettre quelque chose. Il n'y a pas besoin forcément de dire « Maintenant, tout le monde, vous venez, c'est le culte de famille. » Il y en a forcément qui vont... Si vous vivez la présence de l'Esprit au quotidien, c'est naturel. Et peut-être naturellement, vous allez faire un culte de famille. Ce sera naturel. Mais s'il n'y a rien, et puis il n'y a que le culte, alors là, on tombe de nouveau dans un héritage qui est religieux. Dans ce texte que nous avons lu, il y a des temps propices pour transmettre la vie au sein de nos familles. Et je termine bientôt. Il est dit « Tu en parleras chez toi ». Verset 7, « Tu en parleras chez toi, dans ta maison. » La version Darby va dire « assis dans ta maison ». C'est quand on est assis à la maison, le meilleur moment, ou le plus souvent, quand on est tous ensemble assis, c'est autour du repas. Et ça, c'est un excellent moment, c'est un moment privilégié pour parler ensemble. Et pour les Juifs d'ailleurs, la table... C'est plus qu'une table, ce n'est pas juste le moment où on mange, c'est un autel, c'est un moment vraiment saint, j'ai envie de dire, et très important. C'est un endroit de fête, de célébration, de communion. Et puis d'ailleurs, Jésus va instaurer ce repas comme un repas, mais alors qu'il partage le repas. Donc pour vous dire, parce qu'il savait très bien que dans le contexte, manger ensemble à table est importante. Et pour nous aussi, ça doit l'être. Évitez de manger chacun dans votre coin. Évitez de laisser vos enfants regarder leur smartphone, là, vos ados, pendant que vous mangez. Mais parlez. Parlez. Comment ça a été ta journée ? Raconte. Ou bien, vous commencez par vous-même. Moi, j'ai été défié avec ça au travail aujourd'hui. Vraiment. Mais j'ai demandé de l'aide au Seigneur. J'ai prié, puis j'ai vu sa main. Là, vous transmettez quelque chose, naturellement. C'est votre vécu. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, quand tu marcheras sur la route, ou quand tu seras en voyage, certaines versions vont dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hors de la maison. Hors de la maison, il y a tout qui nous parle de Dieu. Tellement de choses à communiquer à travers sa création, par exemple. Les éléments naturels parlent, ou certaines activités que vous allez faire vont pouvoir être une illustration ou d'une réalité spirituelle, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer à vos enfants, ou si vous l'expliquez avec la parole, il ne va pas comprendre parce que c'est trop compliqué. Mais en étant hors de la maison, montrez-lui, waouh, la création, waouh, les montagnes. Hey, tu t'émerveilles de ça, mon gars. Waouh, ça, c'est le Seigneur qui a créé ça. C'est tellement beau, ces paysages. Mais si on s'en fout, on s'en fout. On ne transmet rien. Mais s'il voit aussi cela... Où hier, mon fils a fait, mes deux ont fait une course pour les petits. Ils ont couru 500 mètres. Waouh, 500 mètres. C'était à peu près le tour d'un petit village. Ils ont gagné un pot de miel. On est très contents pour le pot de miel. Bonne idée. 500 mètres. Mais voilà, un événement de la vie. Puis j'ai dit à mon fils, naturellement, je lui ai dit, tu sais, des fois, la vie avec Christ, c'est comparé à une course. Comme tu as fait. C'est quoi le but ? Faut tenir jusqu'au bout. Il faut persévérer. Voilà. Pas besoin de faire plus long. Mais il a compris. Il a compris quelque chose. Ce n'est pas forcément parfait, mais j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Ensuite, il écrit « Quand tu te coucheras ». Le moment du coucher, c'est aussi un temps privilégié. Les parents le savent, c'est un moment où vous pouvez vous arrêter. J'encourage les papas à prendre ce temps avec vos enfants. Priez pour eux, les bénir, aussi les écouter. Mais ça a été ta journée, de nouveau, avoir ce contact. Qu'est-ce qu'on peut dire à Jésus? Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour une chose? Est-ce qu'il y a une chose que tu veux dire? Et puis, vous vivez juste ce petit moment ensemble. Et dernière chose, quand tu te lèveras. Alors, les premiers instants du matin, Michel a dit tout à l'heure, il y en a peut-être qui sont levés du mauvais pied. Mais c'est vrai, hein, des fois, le matin, on peut se lever du mauvais pied, ça arrive. Ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le matin? Je crois que c'est important de... Nous, ça nous est arrivé. Hein. Une fois, les enfants arrivent, débarquent dans notre chambre, puis franchement, on était, je sais pas, on dormait encore, puis du coup, on n'a pas pu leur dire « Oh, mes chéris, on est tellement contents !» Non, on dit « Oh, mais c'est trop tôt, ne peut pas retourner dans votre chambre un moment, jouer !» Et puis eux, ils sont à fond. Ça arrive. Puis, du coup, ben, on est parti comme ça, puis c'est comme si l'enchaînement était négatif, franchement. L'enchaînement était des cris, des énervements pour rien. Puis à un moment donné, j'ai dit, père de famille, c'est bien. J'ai dit, ok, stop, on recommence. D'accord ? Bonjour mes chéris, on est content que vous soyez là, on va vivre cette journée ensemble et on s'en réjouit. D'accord ? Et on demande l'aide au Saint-Esprit pour vivre cette journée ensemble dans la joie et l'unité. Des fois, il faut s'arrêter et reprendre les choses au début. Parfois, c'est le moment du déjeuner, hein, vous pouvez prendre un petit moment à déjeuner, juste prier pour la journée. Et puis, pourquoi pas partager un verset qui va juste vous tenir toute la journée, encourager tout le monde pour la journée. Puis parfois, on n'a pas le temps. Puis il ne faut pas vous culpabiliser de ça. Ok ? Vous n'arrivez pas. Ben, vous n'arrivez pas. On est, de nouveau, on n'est pas dans un mode religieux où il faut absolument à déjeuner, prier, donner le verset aux enfants et les bénir. Non ! Mais ça doit découler, quelque chose de naturel, simple, sans... trop de rituels. Voilà. Alors, mon désir ce matin, c'est vraiment de vous encourager à être le message, comme je l'ai aussi écrit dans l'édito, à être le message, à transmettre la vie, à transmettre la langue de l'esprit. Et je fais juste quelques oppositions. Le langage de la religion, c'est obligation. Le langage de la vie, c'est relation joyeuse. Le langage de la religion, c'est la loi. Le langage de la vie, c'est l'esprit. Le langage de la religion, c'est les traditions. Le langage de la vie, c'est le renouvellement. Le langage de la religion, c'est extérieur, beaucoup de façades. Mais le langage de la vie, c'est intérieur. Le langage de la religion, c'est la condamnation. Mais le langage de la vie, c'est la grâce. Le langage de la religion, c'est la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Mais le langage de la vie, c'est la liberté. On a été affranchi. Le langage de la religion, c'est l'humiliation. Hein, souvent, il y a de l'humiliation. Mais le langage de la vie, c'est la construction. On construit l'autre. Alors qu'on transmet, on ne transmet pas une loi qui va condamner, mais on transmet une vie, on transmet la grâce qui va construire notre enfant, qui va construire notre voisin, qui va construire qui que ce soit, mais qui construit. Le langage de la religion, c'est l'amour conditionnel. Tu as tout fait très bien. Waouh, je suis fier de toi, mon fils. Le langage de la vie, c'est je t'aime. Tu as loupé. Je t'aime. Tu as fait une erreur. Je t'aime. Le langage de la religion, c'est la sclérose, c'est sclérosé. Mais le langage de la vie, c'est en mouvement, c'est du changement. Alors, c'est vrai qu'il est souvent rassurant de faire entrer nos enfants dans une structure religieuse. C'est valable pour nous aussi. C'est plus facile de les faire rentrer dans un système religieux et dans des choses qu'on connaît déjà, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. La nouvelle génération, elle a besoin de voir notre proximité, de voir notre intimité avec Dieu. Ils ont besoin de voir comment vous vivez sa présence au quotidien, même si c'est difficile dans les moments de crise, mais dans les moments de joie aussi. Ils ont besoin de vous entendre prier. Est-ce que vous priez en langue? Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui prient en langue. Est-ce que des fois vous priez en langue? Est-ce que déjà vos enfants ont entendu ça? De nouveau, ce n'est pas vous mettre en exemple, Mais s'ils l'entendent une fois parce qu'il a la joie dans la maison, puis vous priez en langue, ben waouh, c'est super, ils vont peut-être vous poser une question, et puis ça leur apprend quelque chose, ça leur transmet quelque chose, même s'ils ne comprennent pas. Alors ne leur mettons pas un fardeau sur les épaules ou un phylactère entre les deux yeux, un phylactère invisible. Porte la parole, là. Non. Mais allons ensemble dans la présence de Dieu. Normal, naturellement, constamment, parlons le langage de l'Esprit. C'est vraiment notre privilège. Et quand je voyais ce peuple juif, ben, maintenant j'ai envie de dire que j'ai un fardeau de prière beaucoup plus grand en étant allé là-bas. Mais n'oublions pas que comment ils démontrent leur attachement à Dieu, c'est par le respect de la loi. C'est par le respect des commandements. Mais nous, par Jésus-Christ, on a été sauvés par grâce. Et on n'est plus premièrement obligé de respecter la loi comme pour démontrer notre amour à Dieu, mais on a été sauvés par grâce. Ce n'est plus parce qu'on fait, c'est simplement un état de fait. On est sauvés, on a été rachetés. Ça, c'est tellement important, c'est un privilège, alors vivons-le. Ne nous remettons pas sous un joug ou sous la loi, va dire Paul. Et je termine avec ce passage de Galates 5, 1 à 6. Moi, je dis que je termine, mais j'ai encore une mini-conclusion. Vous êtes encore avec moi. Galates 5, 1 à 6. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon, donc il faut tenir dans la liberté, hein, on a l'impression que c'est facile, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, donc nous, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Donc c'est vrai pour toutes les autres lois. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance est d'être déclarés juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. De nouveau l'Esprit, l'importance de l'Esprit Saint qui fait naître cela en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Finalement, c'est d'avoir une foi qui se transmet. C'est d'avoir l'Esprit en nous qui va être transmis. C'est ça qui compte. C'est toujours plus facile de dire à quelqu'un, tu dois, fais ceci, va là. C'est plus difficile de lui montrer comment c'est vivre avec Jésus. C'est quoi? Comment grandir avec Jésus? Comment on fait pour connaître Jésus en profondeur? C'est vrai. Va à l'église tous les dimanches, tu verras. Non, c'est pas ça. Connaître Jésus en profondeur, c'est comment? Alors je vais conclure et je vous invite simplement à fermer les yeux. Je vous rappelle ces deux questions. Que transmettons-nous? Qu'est-ce que je transmets? Et quelle langue parle-t-on? Quelle langue parle-t-on à la maison? Et j'aimerais vraiment prier pour plusieurs personnes ce matin. J'aimerais prier premièrement pour ceux qui peut-être se sont endormis et veulent de nouveau transmettre le langage de la vie. De manière générale, pas juste à vos enfants, mais vous réalisez que peut-être bien vous vous êtes un peu endormis. Vous ne transmettez plus. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui veulent de nouveau transmettre le langage de la vie? Vous pouvez juste lever votre main et je prierai pour vous. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Et je vais prier pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, pour être des parents qui vont vraiment transmettre ce qu'ils vivent. Hein, vraiment un besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit ce matin. On veut prier. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont l'impression que c'est trop tard. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est trop tard ce matin avec leurs enfants? Il y en a qui disent, oh, on a fait faux. J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent ça? Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, continuez à transmettre, continuez à aimer, qu'ils puissent voir la vie de l'Esprit en vous. J'aimerais prier encore pour que des pères et des mères spirituelles puissent se lever pour la génération suivante. Peut-être vous n'avez plus d'enfants, peut-être vous n'avez pas pu en avoir, peut-être vous êtes célibataire. Mais vous pouvez transmettre quelque chose à la génération suivante. Est-ce qu'il y a des pères et des mères, des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent dire « Moi, je me lève ce matin et je veux transmettre à la génération suivante. » J'ai moi-même peut-être pas d'enfants ou plus d'enfants, mais je veux transmettre. Est-ce qu'il y en a qui ont ça sur le cœur ce matin? Alléluia. Merci, Père. On veut prier ensemble. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit ce matin. Seigneur, merci de renouveler nos cœurs, de renouveler une passion et un feu. Seigneur Jésus, je veux vraiment prendre position face à tout esprit religieux. Et je prie, Père, que celui et ceux qui ont levé la main, que vraiment ils puissent à nouveau transmettre la vie. Seigneur, je prie que ta vie les visite, que ton fleuve d'eau vive coule. Seigneur, vraiment qu'ils aient un ciel ouvert. Seigneur, que la vie que tu as déposée dans leur cœur puisse être retrouvée, que ce feu puisse être ravivé maintenant, et que leurs paroles soient pleines de grâce, que leurs paroles pour leurs enfants soient pleines de ton esprit. Et Seigneur, que ce ne soit pas simplement des principes, que ce ne soit pas juste des dogmes, mais Seigneur, que ce soit la vie. Père, on proclame ta vie dans ce lieu et ta vie dans ceux qui la demandent. Jésus, Seigneur, je prie que tu renouvelles dans le Saint-Esprit maintenant les hommes et les femmes qui ont les parents, les couples qui désirent vivre pleinement ton esprit, être remplis de toi et transmettre ton esprit à leurs enfants. Seigneur, que le Saint-Esprit, que ton esprit soit présent dans nos foyers jour après jour. Oh Papa, prends possession, Seigneur, prends position, viens régner dans nos foyers, Père. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, renouvelle ce matin, renouvelle par ton esprit. Père, merci. Et Seigneur, je prie pour ceux qui peut-être se culpabilisent de dire, mais moi, on n'a pas réussi avec nos enfants, mais ils ne suivent pas, mais ils ont entendu. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes les mettre au large et que dès aujourd'hui, Seigneur, tu puisses les renouveler aussi dans leur amour pour leur enfant, Seigneur Jésus, pour leur amour, même si c'est un enfant adulte, Seigneur Jésus, que leur attitude, que leur fidélité puisse vraiment porter du fruit dans leur vie, que leur joie, leur témoignage puisse être vivant dans la vie de leurs enfants. Seigneur, tes plans sont parfaits, on croit que ta bénédiction va s'étendre sur nos familles, va s'étendre parce que tu es le Dieu des générations. Et Seigneur, on prie aussi pour ces mères et ces pères qui veulent se lever ce matin. Seigneur, il y a une génération qui crie, qui a besoin de pères et mères spirituels, d'hommes et des femmes qui vont les conduire, Seigneur, près de toi, qui vont les conduire dans ta présence, qui vont être des pères et des mères pleins d'amour. Seigneur Jésus, je prie que tu suscites ces vocations dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.